Oui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Didier Bourlès qui vient du CEREJ. Alors CEREJ, ça doit être Centre d'études. Centre européen de recherche
et d'enseignement en géosciences de l'environnement.
D'accord. Bien. Ça, c'est le problème de tous ces sigles, hein, c'est un peu difficile. C'est un centre CNRS, comme l'indique l'UMR 6635. Ils ont beaucoup de chance, hein, ils sont à Aix, et croyez-moi, hein, ils habitent sur un joli plateau, c'est bien agréable, quoi, hein, c'est vraiment très chouette. Bon, Didier a accepté de venir vous parler, comme je vous le disais ce matin, du temps en géologie. Et vous verrez, mais c'est son équipe qui a mis au point une nouvelle méthode qui a permis de dater le jeune homme dont je vous parlais ce matin, ce jeune homme tchadien qu'on appelle Toumaï et qui a 7 millions d'années. Mais Didier, tu as la parole.
Bonjour. Donc, on va parler des méthodes de datation et on va se concentrer au cours de l'exposé sur les méthodes de datation absolue, mais on a aussi besoin, pour valider des nouvelles méthodes, de méthodes de datation établies, et parmi celles-ci, il y a aussi des méthodes de datation relatives, et dans le cas qui va nous intéresser tout à l'heure, on aura comme seule possibilité pour valider la justesse de notre méthode, des méthodes de datation relative. Donc je vais commencer par vous donner un petit peu, et aussi pour détruire ou relativiser certaines méthodes de datation, je vais vous donner aussi, on va commencer par regarder un petit peu quelles sont les méthodes de datation dont on disposait avant cette nouvelle méthode que l'on a mise au point au cours des 5 dernières années, mais qui est en fait une adaptation d'une méthode que j'avais déjà plus ou moins abordée il y a une vingtaine d'années. Donc, oui. Non, ça va, je préfère être debout, j'aime bien bouger. Donc, on va commencer par regarder un petit peu quelles sont les méthodes de datation relative dont on dispose. Bon, ça ne va pas être exhaustif, ça va être les principales, hein. Donc, d'abord, une définition. On va avoir deux types de définitions, la définition relative et la définition absolue. La datation relative, pardon, et la datation absolue. Et la datation relative, c'est l'ensemble des méthodes de datation qui permettent d'ordonner chronologiquement des objets, de quelque nature qu'ils soient, ou des événements. Et ces méthodes de datation relative s'appuient sur un certain nombre de principes qui sont au nombre de 5. Le premier principe qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le principe d'actualisme. C'est-à-dire que pour utiliser les principes sur lesquels est basée la datation relative, on doit d'abord faire l'hypothèse que les lois physico-chimiques qui gouvernent l'évolution de la surface de la Terre n'ont pas changé au cours du temps. Et lorsque l'on accepte ce principe d'actualisme, on a, à partir de là, un certain nombre de principes géométriques qui vont permettre de dater relativement des objets ou des événements. Le premier principe géométrique, c'est le principe de superposition. C'est très simple, il dit que lorsque vous avez une succession de dépôts, que ces dépôts soient sédimentaires ou volcaniques, eh bien généralement, le dépôt le plus bas est plus ancien que le dépôt qui lui est supérieur, qui est lui-même plus ancien que le dépôt qui lui est surjacent. Et donc, en fait, on définit de cette façon ce qu'on appelle des strates, les strates étant des épaisseurs de matériel ayant des limites plus ou moins parallèles et qui sont les unes au-dessus des autres. Et donc, selon ce principe de superposition, la couche 1, qui est inférieure à la couche 2 et plus ancienne, qui est elle-même plus ancienne que la couche 3. Mais il faut se méfier de ce principe de superposition parce que la surface de la Terre est loin d'être une surface non calme et non perturbée. Et il peut y avoir des événements qui vont bouleverser cet ordre. Et à ce moment-là, on fait appel au principe de recoupement. Si vous avez un événement qui a perturbé la disposition des strates originelles, par exemple, une faille qui traverse les dépôts, eh bien, à ce moment-là, vous voyez que, à ce niveau-là, par exemple, le principe de superposition n'est plus vraiment respecté. Donc, il faut faire attention à bien observer les strates que l'on veut dater relativement et s'assurer soit qu'elles n'ont pas été perturbées, et si elles ont été perturbées, ça va permettre également une datation relative qui est basée sur le fait que cet événement, comme vous le voyez ici, a perturbé la strate 1 et la strate 2, mais pas la strate 3. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la strate 1 et la strate 2 étaient en position avant que la faille tectonique ne joue. Donc la faille, elle est postérieure au dépôt de 1 et de 2. Mais par contre, la strate 3 n'a pas été perturbée par cette faille. Donc la strate 3 est antérieure. 1 et 2 étaient antérieurs et 3 est postérieure à l'activité de la faille. D'accord ? Ensuite, il y a le troisième principe géométrique, c'est le principe de continuité, qui est de dire que, en fait, la datation relative ne permet pas d'aller à l'intérieur de la strate. On peut dater une strate relativement à une autre strate, c'est-à-dire deux dépôts qui sont manifestement différents l'un de l'autre, mais à l'intérieur d'un même dépôt, les perturbations et l'ordre de dépôt, on n'a pas de certitude sur la façon dont il a pu se produire au cours du temps. Donc, on considère que l'ensemble de la strate a le même âge. C'est ce qu'on appelle le principe de continuité. Je rappelle, une strate est bornée par deux limites. Eh bien, on considère qu'à l'intérieur de ces deux limites, l'ensemble du matériel a le même âge. Et puis, le quatrième principe géométrique, c'est le principe d'inclusion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans une strate de composition donnée, vous trouvez un matériel qui, manifestement, de par sa composition, n'appartenait pas originellement à cette strate, eh bien, il y est venu après. Donc, tout morceau de roche qui est inclus dans une strate est obligatoirement plus ancien que le contenant, c'est-à-dire que la strate. Et puis, outre les principes géométriques, il y a un principe qui va nous être très utile plus tard, qui est le principe d'identité paléontologique, qui simplement dit que lorsque dans une strate, vous trouvez un certain nombre de fossiles bien identifiés, qui ont par ailleurs été retrouvés dans un autre dépôt qui, lui, pour une raison quelconque, a pu être bien daté, eh bien, la strate qui contient les mêmes fossiles que celle qui a été datée ailleurs a le même âge que la strate datée. Donc, en fait, ces fossiles, selon leur assemblage et selon leurs caractéristiques, vont pouvoir permettre de dater relativement la strate dans laquelle ils se trouvent. Et ici, vous avez des photos d'ammonites qui sont extrêmement utilisées parce que les ammonites ont des caractéristiques qui changent très vite au cours du temps. Donc, elles définissent des périodes des temps géologiques bien spécifiques selon leurs caractéristiques, et en plus elles ont l'avantage d'avoir eu une dispersion géographique importante, donc elles permettent sur de grandes échelles spatiales de dater relativement des strates qui les contiennent. Donc voilà les principes de la datation relative. Maintenant, nous allons aborder la datation absolue, qui est l'objet essentiel de cette conférence. Donc, la datation absolue, la définition est complètement différente, puisque, en fait, le but de la datation absolue, c'est d'aboutir à un résultat chiffré, exprimé en années. Et il peut concerner événements, objets, strates, niveaux archéologiques. Et ce qui est commun à l'ensemble des méthodes de datation absolue, c'est qu'elles utilisent des phénomènes de transformation physico-chimique. Quel que soit le type, comme on va le voir quand on va décliner un certain nombre de ces méthodes de datation absolue, quel que soit le type de transformation physico-chimique auquel on s'adresse, il faut que l'on ait un phénomène physico-chimique évoluant au cours du temps et dont on connaisse la vitesse d'évolution. On a une évolution dont on connaît la vitesse, et à partir de ce moment-là, on peut, connaissant la vitesse, revenir au temps. Il y a quatre groupes principaux de méthodes de datation absolue. Les méthodes basées sur les phénomènes de diffusion et de racémisation. On va voir tout de suite ce que ça signifie. Les méthodes basées sur des phénomènes cycliques. Les méthodes basées sur les défauts cristallins. Et les plus connues de ces méthodes de datation absolue, ce sont les méthodes basées sur des phénomènes radioactifs, dans lesquelles on distingue deux types de méthodes, les méthodes dites isochrones et les méthodes directes. Alors, là aussi, je vais vous donner un aperçu des méthodes de chacune de ces groupes, et je vais me focaliser sur, je dirais, les méthodes qui sont soit relativement bien établies, soit dont les recherches actuelles permettent de penser quelles sont les plus prometteuses. Pardon. Donc, parmi les méthodes basées sur les phénomènes de diffusion et de racémisation, il y a une méthode qui est une méthode d'hydratation de l'obsidienne, qui est en fait une méthode de diffusion et où l'on date, en fait, des obsidiennes ou des verres volcaniques en mesurant l'épaisseur d'obsidiennes ou de verres volcaniques qui ont été hydratés. Donc, ce que l'on mesure, là, c'est la vitesse de diffusion de l'eau dans l'obsidienne. Comme toutes les méthodes que l'on va évoquer, toutes ces méthodes nécessitent des calibrations et les vitesses de diffusion d'hydratation, par exemple, dépendent des paramètres environnementaux, donc ils nécessitent une calibration, je dirais, quasi-locale. Et l'application de cette méthode de diffusion de l'eau, qui actuellement est appliquée essentiellement à l'hydratation de l'obsidienne, permet de dater sur une gamme temporelle qui va de 200 à 200 000 ans. Il y a une autre méthode, qui est la méthode de racémisation des acides aminés, qui est une méthode en développement depuis une vingtaine d'années, mais en progrès constant, et qui est basée sur le fait que, dans l'organisme, dans la nature, toute molécule présente des structures symétriques différentes qui correspondent à l'image de l'une dans un miroir. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle des structures droites ou des structures gauches, lévogyres, dextrogyres. Et il se trouve que les acides aminés, dans un organisme vivant, sont toutes et toujours de structure gauche. Mais, à la mort de l'individu ou de l'espèce qui contient ces acides aminés, les mécanismes biologiques qui permettaient d'assurer le fait que tous les acides aminés avaient une structure gauche disparaissent. Et à ce moment-là, par interaction avec l'environnement, on a transformation d'un certain nombre de ces structures gauches en structures droites. Et le nombre de structures droites par rapport au nombre de structures gauches augmente avec le temps à une vitesse qui est à déterminer et méconnue dans différents types d'environnements. Et donc, en mesurant la proportion relative de structures droites et de structures gauches, on peut remonter à une date. Et la gamme temporelle couverte par cette méthode va de 100 000 à 400 000 ans. Alors, je voudrais vous faire remarquer, je le ferai à chaque fois, parce que c'est très très important pour comprendre pourquoi nous avons cherché à développer une autre méthode de datation sur l'hydratation de l'obsidienne ou des verres volcaniques. Pour pouvoir l'appliquer, il faut que vous ayez de l'obsidienne ou des verres volcaniques. Pour la méthode de racémisation des acides aminés, c'est bien évidemment lié à la présence de matière organique liée à un organisme vivant. Ensuite, vous avez les méthodes basées sur les phénomènes cycliques. La méthode la plus connue dans cette gamme de méthodes, c'est la dendrochronologie, qui est basée sur le fait que chaque année, bien, dans le bois d'aubier d'un arbre, vous avez une nouvelle cerne qui se forme. Et cette cerne, l'épaisseur de cette cerne, va, elle aussi, correspondre à des paramètres environnementaux. Et si l'on a l'ensemble de toutes les cernes de l'arbre, en comptant les cernes une par une, eh bien, on a la date de l'arbre qui a, par exemple, servi à construire un bateau ou qui est poutre d'un bâtiment ou qui est dans un environnement que l'on désire dater. Donc, première nécessité, c'est d'avoir l'arbre dans sa totalité. Et malheureusement, les arbres les plus vieux que l'on trouve sur Terre ne nous permettent pas d'aller au-delà de 11 000 ans. BP, ça veut dire before present, et le présent est établi à l'année 1950. Un deuxième phénomène cyclique qui est très utilisé, c'est le paléomagnétisme, qui est basé sur le fait que quand vous chauffez un matériau qui a des structures qui s'orientent dans le champ magnétique, lorsque le matériau est chauffé, la liaison entre les atomes est suffisamment souple pour que les atomes qui sont sensibles à l'action du champ magnétique s'alignent dans ce champ. Et lorsque l'objet se refroidit, ces atomes gardent leur orientation dans le champ. Et le champ magnétique, comme vous le voyez ici, a une intensité et aussi une orientation qui change au cours du temps. Et donc, en connaissant les variations de l'intensité du champ magnétique et de sa direction au cours du temps, on peut, en mesurant l'intensité magnétique d'un objet et l'orientation du champ magnétique dans cet objet, retrouver à quel endroit de cette évolution temporelle de la variation du champ magnétique en fonction du temps il se trouve, et donc le dater. Les limites temporelles de cette méthode va jusqu'à quelques dizaines de milliers d'années. Et en fait, la courbe de calibration a été construite sur des objets dont on connaissait par ailleurs la date en ayant appliqué d'autres méthodes. Alors ici, bien, il vous faut un arbre complet et on ne va pas au-delà de 11 000 ans. Et ici, il vous faut un matériau qui a été chauffé puis refroidi. Et de même, on va difficilement, à cause des problèmes de calibration, au-delà de quelques dizaines de milliers d'années. Ensuite, vous avez des méthodes qui sont basées sur les défauts cristallins. Une méthode très connue est la thermoluminescence. Elle est basée sur le fait que un matériau cristallisé présente une structure très ordonnée, mais qui présente néanmoins des défauts à l'échelle moléculaire. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous amenez de l'énergie, par exemple sous forme de photons, c'est-à-dire sous forme de lumière, dans ces matériaux cristallisés, vous allez faire passer des électrons d'un état lié à un état excité, voire qui peuvent aller s'accumuler lors de leur passage à l'état excité, qui peuvent aller se piéger dans des défauts cristallins. Et bien évidemment, le nombre d'électrons que vous allez piéger dans des défauts cristallins va dépendre de la quantité d'énergie que vous leur apportez, c'est-à-dire de la quantité de photons qu'ils vont recevoir, quantité de photons augmentant au cours du temps. Et donc, plus votre objet a été exposé longtemps à la lumière, plus il aura de photons piégés dans les défauts, et donc plus il sera thermoluminescent. Et donc, en fait, pour ramener ces électrons à l'état initial et les libérer de leur piège, eh bien, il suffit de chauffer le matériel et à ce moment-là, vous dilatez les pièges et les électrons viennent se remettre sur leur orbite initiale en libérant du rayonnement qui est la thermoluminescence. La gamme temporelle couverte va de l'actuel à peu près 200 000 ans, voire, dans certains cas très favorables, jusqu'à 500 000 ans, avec une précision de 7 à 10%. Il y a des méthodes basées exactement sur le même principe, mais sur des paramètres plus sophistiqués qui sont la résonance paramagnétique électronique et la résonance de spin électronique, qui ont été mises au point pour permettre de dater jusqu'au million d'années dans la calcite et jusqu'à 5 millions d'années dans les os et les dents. Dans le premier cas, ici, pour la thermoluminescence, vous avez besoin de matériaux qui ont été suffisamment chauffés à un moment donné pour vider les pièges et qui après réaccumulent leur dose d'électrons. Ici, vous avez donc besoin de calcite et d'os ou de dents. Alors ça, c'est des méthodes qui sont en développement et de plus en plus utilisées. Ce sont des méthodes qui sont basées sur les défauts cristallins. En fait, cette fois, on ne va pas utiliser les défauts préexistants dans le réseau cristallin, on va utiliser les défauts qui sont créés dans les réseaux cristallins par la désintégration spontanée de l'uranium-238 et de l'uranium-235. Lorsque l'uranium-235 et l'uranium-238 se désintègrent, ils produisent des particules énergétiques qui vont créer dans un réseau cristallin des traces de fission, c'est-à-dire que la particule qui est éjectée du noyau va, en libérant de l'énergie dans le réseau, perturber le réseau et créer des zones de défaut. Et bien évidemment, la quantité d'uranium-235 et 238 se désintégrant, augmentant avec le temps, plus l'objet est vieux, plus le nombre de traces que vous pouvez observer dans un défaut cristallin est élevé. Et donc, pour pouvoir faire des types de datation thermochronologiques, il faut à la fois connaître la concentration en uranium-238 et en 235 de l'objet, éventuellement aussi la quantité d'uranium-238 et 235 présent dans la matrice le contenant. Et ensuite, eh bien, il faut révéler ces traces et les compter. À condition d'avoir l'ensemble de ces paramètres, on peut déterminer quel a été le dernier événement qui a chauffé cet échantillon, puisque ces traces ne persistent que dans la mesure où l'échantillon est maintenu dans des températures basses. Dès que vous réchauffez cet échantillon, les traces vont s'effacer et le réseau cristallin va se réordonner. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle la thermochronologie, parce qu'en fait, c'est une méthode qui permet de dater le moment où une strate donnée est passée par un isotherme de température donnée. Cet isotherme va de quelques centaines de degrés à moins de 100 degrés pour les dernières méthodes mises au point, qui est la méthode dite uranium, thorium, hélium. Donc ici, ce qu'il vous faut, c'est un matériau. Alors généralement, on fait ça sur des zircons, on fait ça sur des feldspaths. Donc ce qu'il vous faut, c'est des minéraux riches en uranium 238 et 235. Ah, les périodes temporelles vont, c'est extrêmement large, de l'actuel à quelques millions d'années. Maintenant, on aborde les méthodes basées sur les phénomènes radioactifs, qui est aussi une évolution physico-chimique, puisque vous avez des éléments qui ne sont pas stables et qui se désintègrent en changeant de nature. Et parmi celles-ci, on distingue donc deux types de méthodes, les méthodes isochrones et les méthodes directes. Alors, les méthodes isochrones, elles ont ceci de particulier, elles sont appelées ainsi, parce que, en fait, lorsque l'on parle d'une chaîne de décroissance radioactive, on a un élément père et un élément fils. Dans les méthodes isochrones, on est capable de mesurer à la fois la concentration de l'élément père et de l'élément fils, et la datation absolue provient de la mesure du rapport du fils, du père sur du fils. D'accord ? Donc ça veut dire que les méthodes isochrones, dans les méthodes isochrones, vous avez la possibilité de distinguer l'élément fils de, son de l'environnement dans lequel il se trouve, pour pouvoir mesurer et le père et le fils. Donc la première méthode est la méthode uranium-thorium, qui permet en fait de dater la précipitation de carbonate et qui est basée sur le fait que l'uranium 234 est un élément qui est soluble dans l'eau, alors que le fils, le thorium, lui, n'est pas soluble dans l'eau. Donc quand vous avez précipitation de carbonate, quel que soit le type de précipitation, que ce soit une précipitation par saturation, comme par exemple ici, ou une précipitation induite biologiquement, comme par exemple la formation d'un corail, au moment où le carbonate précipite, puisque l'uranium est soluble dans l'eau, vous avez de l'uranium qui va précipiter, et puisque le thorium n'est pas soluble dans l'eau, il va rester à l'extérieur de la précipitation. Donc, votre matériel qui précipite contient de l'uranium, mais pas de thorium. Mais cet uranium se désintègre en thorium, et au cours du temps, donc au départ, vous avez un rapport thorium-uranium qui est égal à zéro, et puis au cours du temps, à un rythme qui est parfaitement maîtrisé puisqu'on connaît les périodes de désintégration, eh bien, le rapport thorium sur uranium augmente puisque le thorium augmente et que l'uranium diminue. Et donc, par la mesure du rapport uranium-thorium, on a l'âge de la précipitation du carbonate. Cette technique permet de dater dans une gamme temporelle qui va de 10 000 à 350 000 ans. Une deuxième méthode qui est de plus en plus utilisée et qui est en plein développement, c'est la méthode rubidium-strontium. Qui est une méthode un peu plus complexe et qui sert à mesurer, enfin à dater, des phases de cristallisation magmatique. Le rubidium et le strontium sont deux éléments chimiques différents. Le rubidium se désintégrant en strontium 87. Donc vous avez le rubidium qui est le père qui se désintègre en strontium. Le strontium a deux isotopes, le 87 et le 86. Lorsque vous avez un magma homogène, dans ce magma, puisque le strontium 86 et le strontium 87 sont le même élément chimique, ils ont le même comportement chimique. Donc, dans tout le magma, vous avez le même rapport strontium 87, strontium 86. Par contre, c'est ce que l'on voit ici. Vous avez ici porté strontium 87, strontium 86, en fonction de rubidium 87, strontium 86. Et dans le magma, le rapport strontium 87, strontium 86 est constant. Par contre, le rubidium 87 est un élément chimique différent du strontium. D'accord ? En fait, le rubidium. Le rubidium se substitue au potassium alors que le strontium se substitue au calcium. Donc, ils ont des comportements chimiques différents. Et quand vous avez ce magma homogène, ce magma, au fur et à mesure qu'il se refroidit, il va y avoir précipitation au cours du temps, en fonction de la température, de différents types de minéraux. Et dans tous ces minéraux, vous allez avoir le même rapport, strontium 87, strontium 86, mais des rapports rubidium sur strontium différents, puisque l'affinité pour ces minéraux du rubidium et du strontium sont différents puisque ce sont des éléments chimiques différents. D'accord ? Mais au cours du temps, ce qui va se passer, c'est que votre rubidium 87 va se transformer en strontium 87. Donc au cours du temps, ce que vous voyez, c'est que la quantité en rubidium qui disparaît fait en sorte que le rapport rubidium-strontium va diminuer, alors que le rapport strontium-87-strontium-86, qui était le même dans tous les minéraux au départ, va augmenter, puisque au strontium-87 initial va s'ajouter le strontium-87 venant de la désintégration du rubidium-87. Et au cours du temps, ce qui apparaît ici est une droite, et en fait, l'âge des cristaux vous est donné par la pente de cette droite. Et pour des roches acides, c'est-à-dire des roches qui contiennent du quartz, vous pouvez aller jusqu'au de la méthode de datation, parce que c'est une méthode qui demande un certain temps pour que cette droite se mette significativement en place. Vous pouvez dater au-delà de 100 millions d'années, et pour les roches basiques, au-delà de 600 millions d'années. Autre méthode basée sur les phénomènes radioactifs, qui est une méthode directe, c'est la méthode potassium-argon, où cette fois, on mesure la concentration d'un élément qui se désintègre. En fait, comme on le verra plus tard, pour faire ce type de datation, on utilise le fait qu'on a un stock initial d'un matériau radioactif qui se désintègre, et donc le stock initial diminue au cours du temps à une vitesse que l'on connaît qui dépend de la période de désintégration. Donc la méthode potassium-argon, eh bien, est basée sur le fait que le potassium 40 se désintègre en argon 4. Et l'hypothèse de départ, c'est que le minéral qui accumule de l'argon n'en contenait pas au départ. Donc le potassium 40 se désintègre et l'argon 40 s'accumule. Le stock initial vous est donné, puisque vous n'aviez pas d'argon ou 40 au départ, et qu'un atome de potassium 40 se désintègre en un atome d'argon 40. Si vous ajoutez au potassium 40 qui reste l'argon 40 que vous mesurez, vous avez le stock initial. Et en mesurant l'argon 40 que vous avez accumulé et le potassium 40 qui vous reste, vous avez le stock final. Et connaissant à quelle vitesse on passe d'un stock initial donné à un stock final donné, eh bien, on a l'âge du minéral, qui sont en général des feldspaths. La période permet de couvrir la quasi-totalité des âges géologiques, et cette méthode est très appliquée à la datation des coulées volcaniques. Alors, il y a une deuxième méthode, qui est la méthode argon-argon, mais qui est en fait simplement un dérivé de la méthode potassium-argon, et qui est lié au fait qu'ici, vous devez mesurer deux éléments, le potassium et l'argon. Donc, on a trouvé l'astuce de bombarder le potassium avec un flux de neutrons qui transforme le potassium 39 en argon 39, et donc, on n'a plus qu'à mesurer que de l'argon. Donc, c'est plus facile, mais c'est exactement le même principe. Et puis là, on arrive un petit peu au cœur du sujet. Donc, dans le cas rubidium-strontium et dans le cas potassium-argon, en fait, ce qu'il vous faut pour pouvoir faire des datations, c'est des dépôts volcaniques. Donc, la méthode directe est basée, la dernière méthode directe que je vais vous exposer, sur laquelle je vais m'attarder maintenant, c'est ce qu'on appelle les nucléides cosmogéniques. Et ce terme veut bien dire ce qu'il veut dire. Il recouvre l'ensemble des éléments qui, dans l'environnement terrestre, sont fabriqués par interaction entre le rayonnement cosmique, d'où cosmogénique, généré par le cosmos, et les atomes présents dans l'environnement terrestre qui le constituent, que ces atomes soient dans l'atmosphère ou dans la croûte. Et le plus célèbre des nucléides cosmogéniques, c'est le carbone 14. Le carbone 14 qui a une période de désintégration égale à 7734 ans. Et en fait, si vous réfléchissez, vous vous apercevez tout de suite qu'il ne devrait pas y avoir de carbone 14 dans l'environnement terrestre. On considère qu'un élément radioactif disparaît au bout d'à peu près 10 périodes. Donc vous prenez la période du carbone 14, 5734 ans, et puis au bout de 57 000 ans, allez, on va dire 60 000 ans, vous n'avez plus de carbone 14 dans l'environnement terrestre. Or la Terre, comme vous le savez, a 4,566 milliards d'années, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait du carbone 14 dans l'environnement. Le fait qu'il y ait du carbone 14 dans l'environnement est simplement dû au fait que l'environnement terrestre est bombardé en permanence dans toutes les directions par le rayonnement cosmique, qui est en fait probablement généré dans l'explosion des supernovas, d'une part à l'intérieur du système solaire, mais également dans tout l'ensemble de la galaxie, voire des processus d'accélération extragalactique pour les particules les plus énergétiques. Et ce flux permanent de particules qui vient bombarder l'environnement terrestre, en interagissant, qui sont très énergétiques, provoque dans l'environnement terrestre des réactions nucléaires, dont un certain nombre produisent du carbone 14, et maintiennent en permanence dans l'environnement terrestre un stock de carbone 14. Et ce carbone 14, il est présent dans l'atmosphère, il s'homogénéise dans l'atmosphère, et on a, dans l'environnement terrestre, un rapport carbone 14 sur carbone total, parce que vous avez le carbone 12 et vous avez le carbone 13, qui est égal à peu près à 10-12. Et tout objet qui respire et qui mange est en, a un stock de carbone 14 tel que le rapport de sa quantité de carbone 14 au carbone total est égal à ce rapport initial. Dès que les échanges entre l'individu, l'être vivant et l'environnement terrestre s'arrêtent, l'équilibre est rompu, puisqu'il n'y a plus, l'être vivant n'est plus en équilibre avec l'environnement extérieur, et à ce moment-là, la quantité de carbone 14 diminue, le carbone 12 et le carbone 13 étant stables, ils restent constants, et donc le rapport carbone 14 sur carbone total diminue à une vitesse donnée, puisque l'on sait que la période est de 5734 ans, donc on a là un moyen de dater. Et la limitation, c'est comme je vous l'ai dit, le fait qu'à peu près au bout de 10 périodes, vous n'avez plus de carbone 14, donc le carbone 14 ne permet de dater que jusqu'à à peu près 50 000 ans. Pardon. Et là, deux contraintes, donc, vous êtes limité à 50 000 ans et il vous faut de la matière organique, c'est-à-dire de la matière qui contienne du carbone. Et c'est à partir de cette, cette limitation-là que l'on a voulu dépasser. On se trouvait, en fait, si vous faites le bilan de ce que, tout ce que je viens de trop longuement vous exposer, vous vous apercevez que chacune des méthodes nécessite un type de matériau donné, et qu'on a des limitations temporelles qui sont parfois très courtes. Et donc, on a essayé de mettre au point une méthode qui permette une datation en continu. Parce que le fait d'avoir besoin d'un type de matériau donné vous oblige, vous donne la possibilité simplement de dater le niveau où vous avez ce type de matériau. Mais entre ces niveaux, vous n'avez pas de substrat, vous n'allez pas pouvoir dater. Donc vous allez faire une datation approximative en extrapolant entre les niveaux datés. Donc on essaie d'avoir une méthode qui date en continu et puis une méthode qui date en continu sur la gamme temporelle la plus large. Alors devant le succès remporté néanmoins par le carbone 14, on s'est dit qu'il fallait que l'on regarde ces fameux nucléides cosmogéniques qui sont fabriqués par bombardement du rayonnement cosmique dans l'environnement terrestre, et essayer de trouver un nucléide cosmogénique qui soit le moins dépendant possible du type de substrat que l'on va pouvoir utiliser, et d'autre part, qui permettent d'étendre la gamme de datation autorisée par le carbone 14. Et lorsque l'on regarde un petit peu la liste des principaux nucléides cosmogéniques, on s'aperçoit que pour aller plus loin que le carbone 14, on est obligé d'aller dans la partie des périodes croissantes. Et là, on a deux possibilités qui sont le béryllium 10 et l'hélium 3. Alors, l'hélium 3 est instable, donc on ne va pas pouvoir bénéficier du mécanisme de la décroissance radioactive. Donc, il nous reste le béryllium 10. Et le béryllium 10 est très intéressant parce qu'il est fabriqué dans l'atmosphère à partir des deux éléments les plus abondants, à savoir l'oxygène et l'azote. Donc, la probabilité que l'on ait beaucoup de béryllium 10 dans l'environnement terrestre est importante puisque sa production se fait par réaction nucléaire sur les deux atomes les plus abondants dans l'atmosphère, à savoir l'oxygène et l'azote. Ces réactions sont ce qu'on appelle des réactions de spallation. Vous avez un neutron qui traverse un noyau d'oxygène et qui, comme un billard dans un jeu de billard américain, va traverser le noyau atomique, en ressortir, mais au cours de son parcours dans le noyau atomique, il va également éjecter 4 protons et 2 neutrons en plus de lui-même. Et sur l'azote 14, c'est la même chose. Donc, on va s'intéresser à ce béryllium 10 et voir ce que l'on peut faire avec. Le problème que l'on a, donc c'est ce que je vais vous expliquer, donc on a la Voie lactée dans laquelle on a des phénomènes très énergétiques, notamment les explosions de supernova, qui produisent un rayonnement cosmique primaire constitué de protons et de particules alpha, très énergétiques, qui rentrent dans l'atmosphère et qui créent sur l'oxygène et l'azote des réactions de spallation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée des gerbes de particules dans lesquelles les neutrons finissent par être dominants, et en traversant ces noyaux d'oxygène et d'azote, dans certains cas, eh bien, on a comme résidu du béryllium 10, mais on a aussi parfois du carbone 14. Lorsque l'on a envisagé la possibilité d'utiliser le béryllium 10 pour dater, on ne disposait que de deux méthodes, le comptage des décroissances radioactives et la spectrométrie de masse. Le comptage des décroissances radioactives, c'est-à-dire que le nombre de particules émises par un noyau quand il décroît est proportionnel à la concentration. Donc si vous êtes capable de mesurer le nombre de déconcentrations, vous êtes capable de remonter à la concentration que vous avez dans votre objet. Le problème, c'est que le béryllium 10, il a une période qui est de à peu près 1,5 million d'années, c'est-à-dire une période qui est à peu près 300 fois plus grande que la période du carbone 14. Donc, la probabilité, avec le même stock d'atomes au départ, la probabilité que vous ayez une décroissance radioactive est 300 fois plus faible. Et puis en plus, la probabilité de fabriquer un béryllium 10 à partir de l'azote et de l'oxygène est moins grande que la probabilité de fabriquer un carbone 14 dans l'atmosphère. Donc, vous avez à peu près un taux de production, si je me rappelle bien, qui est à peu près 30 000 fois inférieur. Donc, ceci vous conduit à quoi ? Ceci vous conduit que pour avoir un nombre de décroissance radioactive qui soit scientifiquement utilisable, c'est-à-dire un nombre d'événements suffisamment élevé pour que votre statistique de comptage vous permette une incertitude associée suffisamment faible, vous oblige à analyser un énorme stock de matière. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur le comptage des croissances radioactives avec le béryllium 10 pour mesurer la concentration dans des sédiments marins, par exemple. Il fallait plusieurs kilos de sédiments marins. Et dans la glace, qui est un autre substrat qu'on utilisait, il fallait plusieurs tonnes de glace. Donc c'est un exploit technologique, mais qui n'offre strictement aucun intérêt parce qu'à essayer d'aller faire de la stratigraphy fine avec des kilos de sédiments marins et des tonnes de glace, vous allez voir que ce n'est pas aisé. Donc, exploit technologique, mais sans utilité applicative, je dirais. La deuxième méthode dont on disposait, c'est la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse permet de trier les éléments en fonction de leur masse, comme son nom l'indique. Et chacune des deux méthodes a un certain nombre de limitations. Donc, on a évoqué donc, la quantité de matière importante pour avoir une statistique suffisante en un temps raisonnable. Et ceci est aggravé par le fait que quand vous comptez, bah, plus votre objet est vieux, moins il a de beryllium 10, donc moins la probabilité que vous ayez des intégrations est grande, donc plus la quantité de matière que vous devez avoir est élevée. Et puis surtout, aussi, il faut des cibles radiochimiquement très pures, c'est-à-dire d'être sûr que ce que vous comptez comme étant une décroissance du beryllium 10 est bien une décroissance du beryllium 10, et ceci implique que vous faites un traitement chimique, vous faites un comptage, vous refaites le même traitement chimique, vous faites un comptage, vous refaites le même traitement chimique, vous faites un comptage, et ce jusqu'à ce que le comptage vous amène à une valeur constante. Pour la spectrométrie de masse, on a deux limitations, qui est la résolution en masse et le niveau de séparation. Et là, on est obligé de faire des compromis. Et en fait, au mieux, la résolution en masse d'un aimant, c'est-à-dire la masse qu'il peut résoudre par rapport à une différence de masse donnée, est d'à peu près 5000 en unité de masse atomique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le seul élément du tableau périodique qui ait une masse sans décimale, c'est le carbone 12. Le nombre d'Avogadro, 602 10 puissance 23, correspond à 602 10 puissance 23 atomes de carbone 12 qui sont, dont le poids est strictement égal à 12,000000 grammes. Mais quand vous mettez le carbone 14, c'est 14,01 avec des chiffres derrière. Et l'azote 14, c'est 14,01. Et puis les chiffres commencent à changer à partir de, ici en l'occurrence, la 5/6e décimale. Et donc, pour avoir un spectromètre qui marche, c'est-à-dire résoudre en masse et avoir encore des atomes après l'aimant, eh bien, vous ne pouvez pas avoir fabriqué un aimant qui sépare mieux qu'un M sur delta M de 5000. Or, par exemple, si vous voulez séparer le carbone 14 de l'azote 14, ben, il faut un aimant qui est 84000. Donc, ça ne marche pas. Alors, pour le beryllium 10, en fait, le problème que l'on a avec la spectrométrie de masse, c'est ce qu'on appelle les isobares, c'est-à-dire des éléments qui ont à peu près la même masse, je dis bien à peu près, pas exactement, mais à peu près la même masse, mais qui n'ont pas le même numéro atomique, c'est-à-dire le même nombre d'électrons, c'est-à-dire le même nombre de protons dans le noyau. Et il se trouve que le beryllium 10 se désintègre en bore 10, et que le bore 10, ce bore 10 qui vient de la désintégration du beryllium 10, vous ne pouvez pas le distinguer d'un bore 10 normal, naturel, qui est un élément stable. Et le bore 10, dans l'environnement terrestre, c'est le quatrième élément mineur. Résultat des courses, la différence de masse entre le beryllium 10 et le bore 10 serait suffisante pour qu'on puisse la résoudre dans un aimant. Je dis bien, donc, on pourrait fabriquer des éléments qui ont la résolution en masse pour séparer le beryllium 10 du bore 10, mais aucun aimant ne pourra atteindre le niveau de séparation nécessaire parce que, en fait, dans l'environnement, vous avez au moins 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de fois de plus de bore 10 que de beryllium 10. Or, le niveau de séparation, dans le meilleur des cas, compromis, séparation en masse, niveau de séparation que vous avez sur un aimant, c'est 1 million. Donc, vous avez au minimum 100 fois trop de beryllium 10 pour pouvoir séparer le beryllium 10 du bore 10. Donc, on ne peut pas utiliser la décroissance radioactive parce qu'on ne peut pas faire de stratigraphie fine et on ne peut pas utiliser la spectrométrie de masse parce qu'on n'a pas technologiquement les moyens d'atteindre le niveau de séparation requis. Donc, il faut inventer autre chose. Et cette autre chose, c'est très simple, en fait. Un atome est caractérisé par deux choses. Il est caractérisé par son nombre de masse, qui est sa masse en unité de masse atomique, et comme je vous l'ai dit, par son numéro atomique, qui est le nombre de protons du noyau. Vous avez carbone 14, azote 14. Carbone 14, c'est 6, le numéro atomique, parce que le carbone a 6 électrons, donc 6 protons. Et ce sont les électrons qui définissent les caractéristiques chimiques d'un élément. L'azote 14, lui, il a 7 électrons, donc 7 protons. Et c'est un élément chimique différent parce qu'il a un nombre d'électrons différent, donc il interagit différemment avec son environnement de celui qui n'en a que 6. Le beryllium 10 a 4 électrons, donc 4 protons, et il est différent du bore 10 qui a la même masse, qui lui a 5 électrons, donc 5 protons. Donc ce qui différencie le beryllium 10 du bore 10, c'est le nombre de protons. Donc il va falloir aller chercher le nombre de protons dans le noyau. C'est la seule et unique façon de distinguer le beryllium 10 du bore 10. Et comment est-ce qu'on va chercher le numéro atomique d'un élément? Et il n'y a pour ça qu'un seul et unique moyen, c'est la loi de Bede-Bloch, qui dit que la perte d'énergie d'un ion traversant une épaisseur de matière dx est proportionnelle au carré de son numéro atomique, c'est-à-dire au carré du nombre de protons. Donc, pour pouvoir différencier le beryllium 10 du bore 10, il va falloir leur faire traverser une faible épaisseur de matière et les récupérer derrière avec suffisamment d'énergie pour pouvoir les caractériser. Et ça, ça conduit à une technique qu'on appelle la spectrométrie de masse par accélérateur. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez donc un spectromètre classique, c'est-à-dire champ électrique, champ magnétique, c'est ça un spectromètre classique, bon, il est un peu plus compliqué, certes, dans lequel vous avez inséré un accélérateur qui va vous permettre de donner à vos ions suffisamment d'énergie pour que, à un moment donné, en l'occurrence ici, vous leur fassiez traverser une très fine épaisseur de matière. Ils vont traverser cette très fine épaisseur de matière et quand ils vont ressortir, celui qui aura le numéro atomique le plus faible, en l'occurrence le beryllium 10, aura plus d'énergie que celui qui a le numéro atomique le plus élevé, c'est-à-dire le bore 10. Et puis ensuite, vous les mettez dans un champ électrique et dans un champ magnétique. Et celui qui a le moins d'énergie va être plus dévié dans ces deux champs électriques et champs magnétiques qui se suivent que celui qui a le plus d'énergie. Et donc, ce qui se passe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, on mesure le stade, mais ça, je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le temps. Ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez un faisceau composite de beryllium 10, le cosmogénique, et de bore 10. Vous faites traverser la fine épaisseur de matière. Le bore 10 est moins énergétique. Le beryllium 10 est plus énergétique. Moins énergétique, il est plus dévié et il finit par se perdre dans la machine, alors que le beryllium 10, lui, va aller jusqu'au détecteur pour être caractérisé. Et là, vous avez le moyen de détecter le nucléide cosmogénique qui vous intéresse. Alors, je vous présente le dernier accélérateur qui est fait pour ça, qui est installé donc au CEREJ, qui est un laboratoire national, qui s'appelle l'accélérateur pour les sciences de la Terre, environnement, risque. Ça fait à peu près 26 mètres de long sur 13 mètres de profondeur. Là, vous avez une source d'ions. Là, vous avez les feuilles qui vous permettent que vous insérez dans le faisceau pour séparer le beryllium du bore. Là, vous avez un détecteur qui est une chambre de Charpak à 4 anodes. Et ici, vous avez la colonne accélératrice qui permet de délivrer une tension terminale de 5 millions de volts. Et ici, vous avez un aimant de très forte puissance qui vous permet d'injecter le beryllium dans la détection. Cette technique, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle améliore d'au moins 6 ordres de grandeur la limite de détection par rapport au décomptage et décroissance radioactive. Pour faire une mesure, on a besoin au minimum de 10 000 atomes, parce que ce que l'on va faire dans cet accélérateur, c'est de compter les atomes un par un. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à 10 périodes. La préparation est très simple et le temps de mesure est de quelques minutes comparé à quelques jours. Si vous vous rappelez les quantités de matière que je vous ai données pour le sédiment et les glaces, maintenant, on mesure la concentration en beryllium 10 dans 1 demi-gramme de sédiment et dans 500 grammes de glace par rapport à quelques kilos et quelques tonnes. Alors, quand on veut faire de la datation avec le beryllium 10, maintenant qu'on sait le détecter, on a un problème. On a un problème, c'est que le carbone 14, il reste 4 ans dans l'atmosphère, il s'homogénéise, et on a un rapport carbone 14 sur carbone qui est constant à la surface de la planète. Le beryllium 10 ne reste qu'un an dans l'atmosphère, il est extrêmement réactif. Dès qu'il est formé, il s'absorbe sur les aérosols ou les noyaux de nucléation et il finit à la surface de la planète, déposé par les précipitations sèches et humides. Et une fois qu'il est déposé, ensuite, puisqu'il est très réactif, il s'absorbe sur les différentes particules et finalement, il se retrouve dans les océans, dans les lacs, dans les zones humides à la surface de la planète. Le problème vient du fait que la quantité de beryllium 10 que vous allez trouver à la surface d'une particule va dépendre des caractéristiques chimiques de la particule. C'est-à-dire sa capacité à absorber les éléments en général et le beryllium 10 en particulier. Donc, le résultat de cette caractéristique, c'est que la concentration au beryllium 10 ne veut strictement rien dire, puisqu'elle est directement liée à la composition ou au type de particules sur lequel il est absorbé. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser la concentration en tant que telle, il va falloir normaliser. Et on va normaliser à l'isotope stable, qui est le beryllium 9. Et on va mesurer un isotope stable beryllium 9, mais que dans la phase autigène, c'est-à-dire à partir de la phase qui a préalablement été dissoute. Puisque le beryllium 10 est introduit dans la phase dissoute, il ne peut s'homogénéiser qu'avec le 9 qui a été dissous. Le beryllium 9 est naturellement présent dans la matrice de la plupart des minéraux. Le plus beau minéral que je peux vous citer qui contient du beryllium 9, c'est l'émeraude, qui est un silicate de beryllium. Donc, on doit normaliser et on doit s'intéresser qu'à la phase autigène, c'est-à-dire la phase qui est déposée à la surface de particules à partir de la fraction qui a été préalablement dissoute. Pour ce faire, on a mis au point des méthodes chimiques qui nous permettent de spécifiquement sortir la phase autigène. Alors, ce n'est pas très beau. Mais c'est ce que je vous disais, c'est comme ça qu'on travaillait il y a 20 ans. C'est-à-dire que ça, c'est un dessin qui est fait à la main avec du Letracet, etc. Quand je dis 20 ans, c'est parce que j'essaye de me rajeunir un peu. Et en fait, on avait testé cette méthode-là sur les sédiments marins. L'idée étant de dater en continu les sédiments marins qui sont formés de particules qui, en traversant la colonne d'eau, vont absorber le beryllium 10 formé dans l'atmosphère et le beryllium 9 soluble, vont s'accumuler et ensuite, au cours du temps, la quantité de beryllium 10 va diminuer, le rapport 10 sur 9 va diminuer, selon une vitesse que l'on connaît, puisque l'on connaît la période du beryllium 10. Alors, je vous l'ai dit, l'avantage du carbone 14, jusqu'à maintenant, bon, certes, il a le désavantage de nécessiter de la matière organique et de ne pouvoir dater que sur 60 000 ans, mais c'est qu'il a un rapport initial, un stock initial parfaitement connu et constant à la surface de la planète. Et on avait fait ces manips, donc, à la surface, vous voyez, dans l'ensemble des bassins océaniques, pour s'assurer que le rapport beryllium 10 sur beryllium 9, cette nécessité de normaliser, nous conduisait à un rapport 10 sur 9 qui était constant à la surface de la planète. Malheureusement, force est de constater que ce rapport beryllium 10 sur beryllium 9 n'est pas constant à la surface de la planète, tout simplement parce que le temps de résidence du beryllium 10 dans l'atmosphère n'est pas assez long, et que la Terre est protégée par un champ magnétique, que le rayonnement cosmique est fabriqué et constitué de protons et d'alpha qui sont des particules chargées, et que toute particule chargée, c'est le principe de base de la spectrométrie de masse, que toute particule chargée soumise à un champ magnétique est déviée par ce champ magnétique. Donc, plus le champ magnétique est intense, plus la déviation est importante. Donc, vous voyez que la quantité de particules qui va pouvoir pénétrer dans l'environnement terrestre, à une latitude donnée, va varier puisque l'intensité du champ magnétique augmente des pôles vers l'équateur et diminue de l'équateur vers les pôles. Donc on a une variation naturelle, latitudinale, de la concentration au beryllium 10 qui est formée à la surface de la planète. Mais à un endroit donné, si vous connaissez votre concentration initiale, vous êtes capable de dater Vous avez ici l'âge paléomagnétique. On a vu tout à l'heure la méthode paléomagnétique, comment on était capable de déterminer un âge. Vous avez l'âge paléomagnétique bien calibré des différents échantillons. Et ici, vous avez le rapport 10 sur 9. Et vous voyez que vous avez une droite ici qui, de décroissance qui a une période. Alors cette période-là, le trait noir, correspond à la période qui était valable à l'époque où j'ai fait cette étude, qui était de 1,51 million d'années. Mais lorsque j'ai fait cette étude, on s'est dit avec mes collègues qu'il y avait une droite qui permettait de mieux passer par l'ensemble des points et que cette droite, elle avait une pente d'à peu près 1,35 million d'années. Et donc, dans la publication, on disait peut-être que la période du Beryllium 10 est fausse et peut-être que c'est plutôt proche de 1,35 que de 1,51. Donc l'équation de datation qu'on utilise, c'est la concentration à un instant. Je vais essayer d'avancer, de finir la datation de Toubaï quand même, pas rapidement, aussi clairement que possible, mais en accélérant un petit peu. Donc ici, la concentration à un instant t est égale à la concentration à l'instant 0, exponentielle moins lambda t. Donc vous avez en fait deux inconnus. Vous avez T, mais aussi vous avez N0. Parce que, dans les méthodes que je vous ai montrées tout à l'heure, comme par exemple uranium-strontium ou rubidium-strontium ou éventuellement argon-argon, le fils est un élément qui n'existe pas dans l'environnement, autre que par la décroissance du père. Or, le beryllium-10 décroît en bord 10 et naturellement, il y a énormément de bord 10. Et il est impossible de distinguer un bord 10 venant de la décroissance du beryllium 10 d'un bord 10 venant de la fabrication, de l'accrétion de la Terre. Donc on se trouve à un problème qui est la détermination du N0. Et on a vu qu'il fallait travailler en plus sur le rapport beryllium 10 sur beryllium 9 oxygène. Donc, avant que de faire une datation, et vous avez vu que ce N0 n'est pas universel, c'est la démonstration sur les sédiments tout à l'heure, donc il faut le déterminer à l'endroit où on veut faire la datation. Si vous avez déterminé le N0, qui est le rapport donc, qui est variable spécialement, donc vous devez précisément vous localiser là où vous allez faire votre datation, eh bien, en plus, il faut que une fois ce N0 connu, il faut que vous soyez sûr que la variation de votre concentration en beryllium 10, elle n'est due qu'à la décroissance radioactive et non pas à des phénomènes de lessivage, par exemple, qui entraîneraient un départ de beryllium 10. Donc, c'est ce qu'on appelle la fermeture du système. Donc, quand Michel Brunet est venu nous voir en nous disant « J'ai un problème parce que je suis bien au-delà, bien évidemment, du carbone 14. J'ai un problème parce que jusqu'à ce qu'ils viennent nous voir, il n'y avait pas de matériel susceptible de pouvoir être daté par une méthode établie et connue. Nous nous sommes dit, bon, bah, est-ce qu'on va essayer de remettre au goût du jour ce que l'on avait fait sur les sédiments marins, la carotte que je vous ai montrée tout à l'heure, en milieu continental. Et donc le problème qui se pose pour nous, comme vous l'avez compris, donc Toumaï a été découvert sur un site qui se trouve par ici. Le problème qui se posait à nous, c'était premièrement la détermination du rapport initial. Et le problème est d'autant plus ardu que, de par les conditions environnementales du bassin du lac Tchad, et surtout sa partie nord qui est très basse, on est dans une zone de déflation. Et donc, on n'a pas d'affleurement continu, on a un paysage très plat avec des affleurements de quelques mètres de ci, de là, qui en plus présentent à peu près tous la même succession des séries continentales, où on a succession de sable, de grès, d'argile et de titanite, qui certes reflètent des conditions environnementales alternantes, mais qui alternent toujours de la même façon au cours du temps, et ce depuis à peu près 7 millions d'années. Où on a une succession de phases de désert, phases lacustres avec des transgressions majeures, de phases fluvio-lacustres, retour au désert, etc., etc. Donc on avait un vrai problème, et on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer ce N0? La seule solution, c'est de trouver à l'endroit ou proche de l'endroit où a été découvert Toumaï, de trouver des dépôts jeunes, c'est-à-dire suffisamment jeunes pour que la décroissance radioactive soit négligeable, qui soient des sédiments biogènes, c'est-à-dire fabriqués à partir de la fraction dissoute, et dans les mêmes conditions environnementales, c'est-à-dire à un moment de phase d'extension majeure du lac. Et, par bonheur, on sait qu'il y a une dernière transgression lacus majeure entre 4,4 et 7 000 ans before present, c'est-à-dire avant 1950. Donc, il existe ici, dans un endroit qui s'appelle Todi Orshianga, il existe des dépôts de thiatomite, et ce qui est extrêmement important, parfaitement préservé. Le moindre signe d'altération ou de bouleversement aurait arrêté la manip. Il fallait que ce soit des dépôts qui soient parfaitement préservés. On a prélevé ces dépôts et on a mesuré. Donc ici, vous avez, il y a 5 échantillons. Vous avez donc ici le rapport 10 sur 9 qui a été mesuré dans ces dépôts. Lorsque l'on fait la courbe de probabilité cumulée, on voit que cette courbe est bimodale avec un échantillon qui manifestement est un outlier. Donc on élimine cet échantillon. On fait un calcul de moyenne pondérée qui nous donne un rapport de 2,54 × 10⁸ avec un indice de déviation pondérée de 0,55, ce qui veut dire que c'est un traitement statistique qui nous dit que l'erreur de 0,09 × 10⁸ que l'on associe, la déviation standard que l'on associe à cette moyenne pondérée, est surestimée par rapport à l'erreur analytique vraie. Et donc, on va prendre, ceci nous conduit à un rapport N0 de 2,54 plus ou moins 0,09 × 10⁸. Voilà ce à quoi on aboutit. Je suis désolé, je passe ça parce que ça présente, j'ai plus le temps de vous en parler. Donc, maintenant, le problème qui se pose, c'est, bon, c'est bien beau de tomber là-dessus, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est juste? Et quelle est la variabilité temporelle de ce N0 au cours du temps? Puisque on part de maintenant, mais on sait que l'on va aller très très loin dans le temps. Et est-ce que ça, c'est ce N0-là qu'on avait à chaque fois, à cet endroit-là, quelle que soit la période de temps auquel on s'adresse? Alors, le seul moyen, enfin, toute nouvelle méthode n'a qu'un moyen pour s'assurer qu'elle n'est pas complètement en dehors des clous, c'est de se calibrer par rapport à ce qui existe déjà. Et ce qui existe déjà dans le bassin nord du Tchad, c'est une seule et unique méthode, c'est la biochronologie. Et donc, on s'est calé, on a regardé quelle était la concordance entre les dates que l'on obtenait en utilisant notre méthode par rapport à la méthode, aux méthodes biochronologiques qui avaient été établies. Et on avait 3 sites fossilifères, KT12, KL et KB1. Avec, donc, pour KB1, un âge biochronologique d'à peu près 5,3 millions d'années, pour KL compris entre 4 et 4,5, et pour KT12 entre 3 et 3,5. Alors, est-ce que l'on voit... Oui. Donc, ici, vous voyez... Là, les points rouges, c'est l'endroit où a été prélevé l'échantillon daté par la méthode beryllium-10, beryllium-9, autigène. Donc, KT12, on a une estimation entre 3 et 3,5 millions d'années. L'âge beryllium-10 que l'on détermine à partir de notre N0 est de 3,58 plus ou moins 0,27 millions d'années. Pour accoler, on a un âge pour cette série ici qui est compris entre 4 et 4,5 millions d'années. Vous avez ici les points rouges qui sont les points de la détermination beryllium-10 qui se trouvent au-dessus, immédiatement au-dessus de la série sédimentaire, donc qui doit se trouver dans la borne inférieure de la série sédimentaire. Rappelez-vous le principe de superposition. Et on trouve un âge qui est de 3,96 plus ou moins 0,48 millions d'années. Et à Kosumbugundi, on a un âge qui correspond précisément à cette zone, qui donne à peu près 5,3 millions d'années, et on trouve 5,26 plus ou moins 0,29 millions d'années. Donc, par rapport à la seule autre méthode disponible, notre nouvelle méthode de datation nous dit qu'on a une parfaite adéquation entre les âges 10 sur 9 autigéniques et les estimations biochronologiques, ce qui implique que le rapport que l'on a initial régional que l'on a déterminé est valide, et que ce rapport est resté relativement constant sur la période considérée, parce que la résolution temporelle que l'on obtient par notre méthode permet probablement un lissage des éventuels changements de taux de production. Donc, pour l'instant, on a déterminé la justesse du N0. Mais ça va plus loin. Puisque on a cette adéquation entre les âges 10 sur 9 autigènes et la biochronologie qui est là, je vous rappelle, la seule autre méthode disponible, ça implique que, du fait de la récurrence du climat désertique depuis au moins 7 millions d'années, du fait de l'absence de tectonique en dehors de la subsidence, et du fait des échanges entre les nappes phréatiques limitées parce que, à chaque fois que l'on a phase lacustre, on a des pots argileux, le système que l'on étudie est bien resté fermé pendant la période étudiée. Donc, on est dans les conditions, on vient de déterminer que cette méthode, dans ce lieu, permettait potentiellement la datation de Toumaï. Il y a, pour ce faire, donc une fois qu'on a eu déterminé ça, on s'est concentré sur la datation de Toumaï, en travaillant sur deux sites, le site direct de découverte de Toumaï et un site très proche, les deux ayant été corrélés et par 20 sections géologiques intermédiaires, qui a abouti au fait que l'on a pu en fait faire la mesure sur la même série de sédimentaires, après avoir démontré que c'était la même série sédimentaire, qui est l'unité à anthracotéride, dans lequel le crâne de Toumaï a été découvert, et dont l'estimation biochronologique était d'à peu près 7 millions d'années. Alors, que donnent les résultats? Donc, excusez-moi, je reviens en arrière. L'unité à anthracotéride est celle qui est limitée par cette barre rouge ici et cette barre rouge là. Donc, on a regardé ici un dépôt lacustre, d'abord, qui nous a donné un âge de 6,26 plus ou moins 0,41 millions d'années. Dans le site TM254, qui est le site qui a été corrélé au site TM266 par les 20 sections intermédiaires, géologiques intermédiaires, il a été trouvé ici une couche de cinérite, qui est en fait une couche, un dépôt volcanique. Alors bien évidemment, on a tout de suite essayé de voir si on pouvait faire de l'argon-argon dessus. Or, mais il se trouve que l'état actuellement, jusqu'à maintenant, l'état d'altération et le type de dépôt ne se prêtent pas de façon immédiate à la datation argon-argon. Mais bien évidemment, Michel Brunet et ses collaborateurs se font fort d'y arriver en analysant des tonnes et des tonnes de cinérite, c'est nécessaire. Donc, on a regardé quel était l'âge, et en fait, aussi, il a été montré que cette couche de cinérite était probablement déposée en même temps que, à peu près au même moment, que le crâne de Toumaï. Donc, on a regardé quel était l'âge des dépôts au-dessus de cette couche de cinérite, on trouve 6,88 plus ou moins 0,4 millions d'années. En dessous de la couche de cinérite, on trouve 7,24 plus ou moins 0,38 millions d'années. Et bien évidemment, on a fait la même chose sur TM266 en regardant l'âge au-dessus du crâne de Toumaï, 6,83 plus ou moins 0,45, et en dessous, 7,12 plus ou moins 0,31 millions d'années. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On peut en conclure que l'unité à anthracotérine s'est donc déposée entre 6,4 et 7,6. Mais ceci correspond, en fait, aux bornes, à la partie supérieure avec, en déduisant l'erreur, et ceci correspond à la borne inférieure en ajoutant l'erreur. Donc, ça veut dire, rappelez-vous le principe géométrique qui dit qu'en fait, on a très difficile de différencier là, à l'intérieur d'une strate. Et d'autre part, si on revient en arrière et qu'on regarde les barres d'erreur associées, on s'aperçoit que ces deux âges ne sont pas significativement différents. Donc, en fait, on peut considérer qu'à l'échelle géologique, et en considérant les barres d'erreur associées à notre méthode, le dépôt de cette couche est instantané et que tous ces échantillons peuvent être considérés pour la datation de Toumaï. Donc, si on prend les 28 âges qui sont dans l'unité anthracotérine, un traitement statistique nous conduit à un âge de 7,04 plus ou moins 0,18 millions d'années. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais dit que, en vous montrant la courbe sur les sédiments marins, je vous avais dit que la droite de décroissance que je vous montrais correspondait à une période de 1,51 millions d'années, mais que la meilleure droite pour l'ensemble de ces points conduisait à une période d'à peu près 1,35 millions d'années. Eh bien, deux semaines avant que nous finalisions le papier que nous avons publié sur l'âge de Toumaï, une nouvelle période du beryllium 10 a été mesurée, qui disait 1,36 millions d'années. Bien évidemment, elle a une erreur associée, et si on inclut cette erreur, on a un âge de 7,04 plus ou moins 0,36. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est probablement l'erreur minimale que l'on peut associer à l'âge, et que ça, c'est l'erreur maximale actuelle que l'on peut associer à l'âge. Âge qui est censé évoluer à suivant la période du beryllium 10, mais a priori, le travail qui a été fait et qui a été publié quelques semaines avant que nous publions notre article qui nous a induit à recalculer, à refaire tous les calculs, le travail a été fait suffisamment sérieusement pour que les variations soient minimales. J'arrêterai là et je vous remercie de votre attention en vous présentant de nouveau Aster, qui est mon jouet préféré. Merci.